Ce n'est que dans les romans que les grenades tombent sur les héros. En France aujourd'hui, des grenades offensives tombent sur n'importe qui, sur Monsieur Tout-le-Monde, sur sa mère ou sa sœur. Ou pour le dire autrement, n'importe quel policier lance des grenades sur n'importe quel citoyen. On voudrait se rassurer en pensant qu'elles sont lancées par des policiers excités ou qu'elles mutilent des manifestants les prenant volontairement en main, comme dit le ministre, mais c'est une erreur. À partir du moment où ces armes sont disponibles, leur usage sera dévoyé et leurs victimes seront tout le monde, vous, moi, nous. Nos gouvernants se sont indignés des tags peinturlurés sur l'Arc de Triomphe le samedi 1er décembre 2018, parce que l'Arc de Triomphe, c'est un symbole de la République. Mais comment osent-ils nous parler de République, alors qu'ils ferment des gares et des maternités, alors qu'ils attaquent notre système de retraite et qu'ils ont laissé se clochardiser l'hôpital? Mais surtout, en quoi la main d'un jeune chaudronnier de 21 ans, une main habile, une main passionnée, n'est-elle pas davantage même qu'un vieux monument parisien, un symbole de notre République? Les gilets jaunes font partie de ceux qui ne sont rien, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron quelques mois après son élection à la présidence. Une expression qui doit être prise au sérieux. Car si certains Français ne sont rien, on peut leur couper une main, on peut leur crever un œil, ce qui est peut-être pire encore, ça n'a pas d'importance.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Souvenez-vous, c'était avant que la crise sanitaire rende floue notre mémoire et nous éloigne du monde d'avant, comme si un siècle nous en séparait. En ce temps-là, nous assistions sidérés à des scènes de guerre civile dans nos rues. Des forces de police, harnachées comme des robocops, affrontaient avec une violence inouïe des hommes, des femmes de tous âges qui réclamaient le simple droit de vivre décemment de leur travail. Alors certes, nous avions vu des violences de leur côté, des dégradations de commerce, des groupes vêtus de noir prônaient barre de fer en main la révolution. Mais pourtant, quelque chose ne collait pas. Ce que racontaient de leur vie et ce que réclamaient ces derniers de cordée ne méritaient-ils pas mieux que la seule répression féroce que leur accordait le gouvernement ? Souvenez-vous de ce sang, de ces yeux crevés, d'une femme à sa fenêtre tuée, de ces gens désarmés matraqués avec une sorte de jouissance morbide, de ces mains arrachées et du discours politique niant tout excès, toute violence policière injustifiée. Après mai 68, où 7 morts furent décomptées, le pouvoir avait tiré fierté des instructions adressées le 29 mai aux policiers par le préfet de police Grimaud, leur demandant d'éviter les excès dans l'emploi de la force et rappelant que frapper un manifestant à terre, c'est se frapper soi-même. 50 années plus tard, sous le regard éberlué de l'Europe, ceux qui nous gouvernent semblent avoir déclaré la guerre à leur peuple. Ce que cette année de violence inédite a fait à notre collectivité, ce qu'elle dit de ce pays et de notre relation aux politiques, n'a pas pu être discuté pour cause du virus. La littérature, souvent, est ce qui permet de remettre en route la réflexion. L'écrivaine Sophie d'Ivry publie au Seuil un récit bref et violent, 5 mains coupées. Lisez-le et puis osez penser. Bonsoir Sophie d'Ivry.
Bonsoir.
On a l'habitude de vous lire dans un genre que vous avez d'ailleurs défendu dans un essai, le roman. Qu'est-ce qui, pour ce livre-ci, vous a semblé impossible à traiter sous forme de roman ? Je pense à David Dufresne, par exemple, qui lui a couvert beaucoup les manifestations et en a tiré un roman. Vous, il vous a semblé que seule la réalité, le compte-rendu, était quelque chose à la hauteur de ce que vous vouliez raconter.
Oui, il me semblait. Pour moi, j'ai besoin de beaucoup de temps pour faire un roman sur ce qu'il se passe en moi et dans l'époque autour de moi, pour le sentir et pour le cristalliser, pour le mettre en récit. Pour moi, les Gilets jaunes, c'était beaucoup, beaucoup trop tôt. Même les attentats, ça en reste encore trop tôt, parce que ça prend du temps, la mise en récit. Par contre, je trouvais qu'en fait, on ne s'était pas arrêté suffisamment sur ce qu'il s'était passé strictement. Et que j'avais besoin de faire... avec 5 mains coupées, moi, j'apporte une pièce au dossier. Essayons de considérer vraiment ce qu'il s'est passé. Regardons-le vraiment, parce que ça... On entendait bien qu'il y avait des mains coupées, des yeux crevés, mais ça passe, on passe à autre chose. Et puis, comme le dit Nathalie Quintin, dans Un œil en moins, qui est aussi un essai de travailler sur Nuit debout, En fait, il y a toujours des manières de ne pas regarder, de ne pas considérer la gravité de la situation. Tout un arsenal psychologique pour ne pas considérer vraiment ce que le présent est grave et que ça nous arrive. Et donc, quand j'ai été journaliste dans une autre vie, je savais que je pouvais interviewer ces 5 hommes qui ont eu la main droite arrachée. Mais j'ai eu d'abord cette idée, qui est quand même une idée littéraire, de faire un cœur unique avec 5 entretiens. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre du montage qui est purement narratif, qui n'est pas de la fiction, c'est de la non-fiction, mais c'est tout de même narratif. Et il y a tout de même une idée formelle. Voilà. Moi, j'aurais préféré en effet continuer à écrire mes petites histoires, mais là, il s'est passé quelque chose d'extrêmement violent, d'extrêmement sanglant, qui s'inscrit dans une histoire, en effet, de la gestion policière, de mouvement social. Et il me semblait que si on s'arrêtait pas un petit peu, on n'allait pas comprendre ce qui nous arrivait. Mais vous savez, on le voit bien maintenant, le monde change beaucoup plus vite que nos conceptions mentales. Mais la littérature, elle, a le temps de s'arrêter. Enfin, moi, j'ai le temps. Comme romancier, moi, on peut prendre 1 an et demi pour écrire 30 pages, on est vraiment complètement à contre-temps. Donc moi, j'ai pris le temps de prendre 6 mois pour aller vers ces gens et rassembler le matériau qui m'a permis d'écrire ce livre.
Alors en mai 68, Sophie Divry, une époque que vous n'avez pas connue, on avait l'habitude dans les forums, dans les assemblées, de demander aux gens qui s'exprimaient « d'où tu parles, toi ?». Donc, je vais vous poser la question. Alors, vous dites que vous avez abandonné le roman parce que c'était de l'histoire immédiate et qu'il fallait la traiter. Alors, d'où parlez-vous pour cette histoire ?
Oui, moi, j'en le dis dans la postface que j'écris tout de même 15 pages, moi, à la fin du livre. Moi, je suis une bourgeoise de classe supérieure culturelle, on va dire. Pour être tout à fait... Bon, j'ai pas fait mes 68, parce que je suis née 10 ans plus tard, mais j'ai lu Bourdieu. Et je suis de classe moyenne supérieure cultivée. Et je habite au centre-ville de Lyon, une grande métropole régionale. On peut dire que je suis assez loin des classes qui ont fait les Gilets jaunes. D'ailleurs, au début, comme beaucoup de gens autour de moi, on regardait ça avec assez de suspicion. Mais j'ai manifesté parce que par ailleurs, je suis militante depuis très longtemps. D'abord dans l'antiproductivisme et puis vaguement dans toute la sphère de gauche radicale.
Vous avez même tenté un peu la politique.
Je me suis présentée vaguement il y a 15 ans aux élections municipales dans un arrondissement de Lyon où j'aurais été au pire conseillère municipale d'opposition, ce qui m'a été évité. Faut regarder passer le match. Mais j'ai fait des études de sciences politiques. Donc ça m'a toujours intéressé la chose, et de toute manière je suis une romancière qui s'intéresse à la société, plus qu'au passé ou plus qu'à son nombril. Donc c'est pas non plus complètement un braquet, je tourne pas complètement les voiles pour aller ailleurs, c'est aussi sa cohérence. Mais en tant que telle, en effet, le fait d'où je parle, moi, je ne parle pas de la classe populaire qui a fait le gros du contingent des Gilets jaunes, et c'était une des choses qui me faisait légèrement peur, qui m'intimidait légèrement quand je suis allée vers ces 5 Gilets jaunes qui ont eu la main arrachée, c'est que je ne fais pas partie de leur milieu, c'est évident. Et du coup, en leur demandant de me raconter ces choses horribles, qui je suis allée manifester un matin, alors que c'était souvent la première fois qu'ils manifestaient, et ça a commencé à dégénérer, et puis j'ai vu tomber une grenade, j'ai voulu m'en protéger, et finalement elle a explosé, 2 secondes après je n'avais plus de main, donc toute ma vie avait disparu, d'une certaine manière. Et rester 2-3 heures avec chacun, qui me racontait des choses relativement atroces, avec une grande confiance. Je me dis, comment gagner cette confiance? Est-ce qu'ils vont accepter? C'était ça, en effet, cette différence de classe, le fait que je pouvais pas arguer d'une certaine complicité ou d'un passé commun. Mais ça s'est bien passé, déjà parce que j'ai commencé par rencontrer Antoine Boudinet, qui lui, je dis son nom et son prénom, parce qu'il n'y a pas de problème pour le dire, Antoine.
Il apparaît dans la presse assez souvent, oui.
Voilà, il a main arrachée à Bordeaux le 8 décembre 2018. Et il a monté avec d'autres qui avaient eu déjà des mutilations, en fait, à Bure et à Notre-Dame-des-Landes. Avec d'autres, il a monté les mutilés pour l'exemple. Donc il m'a fait l'interface. Et il a reçu avec énormément d'amitié et d'enthousiasme mon projet, parce que plus on parle de nous, moins on nous oublie, plus on sera content que ça continue. Et grâce à lui, donc à Bordeaux, j'ai rencontré Frédéric, qui avait eu une semaine avant sur la même place, la main arrachée. Et à partir de là, j'ai continué et ils se sont un peu donné le mot, à rencontrer mais ensuite Sébastien, qui est argentin, qui a 30 ans, qui était plombier. Je dis qui c'est, parce que c'est important, c'est des êtres humains, justement, et puis c'est des héros du bouquin. Et ensuite, ce qui a été plus difficile, une fois que j'ai rencontré Antoine, donc, qui d'ailleurs est étudiant, c'est le seul qui est étudiant, les autres étaient déjà des travailleurs. Antoine Frédéric, qui est ouvrier, qui arrimait des bateaux dans les ports de l'estuaire de la Gironde, puis Sébastien, qui était plombier à Argenteuil, tous plus jeunes que moi. Ensuite, j'ai rencontré avec beaucoup plus de difficultés Gabriel et sa mère. Gabriel avait 21 ans, c'est le chaudronnier dont on a parlé en introduction. qui était beaucoup plus méfiant, une méfiance que je trouve relativement raisonnable, vis-à-vis qu'on ne se connaissait pas. Donc je les ai rencontrés une première fois, puis ensuite on a enfin pu enregistrer l'entretien. Et grâce à eux, grâce à la mère de Gabriel notamment, qui dévoue à peu près sa vie maintenant à défendre la cause de son fils, elle a pu convaincre Ayan, le dernier.
Le plus vieux.
Le plus vieux, qui a 50 ans, qui est d'origine turque, et qui est délégué syndical dans une usine autour de Tours, qui lui a repris le travail à mi-temps thérapeutique, c'est le seul qui avait repris le travail. Et donc j'ai commencé les entretiens en septembre 2019, à peu près un an après les Gilets jaunes, et je les ai terminés en février 2020, peu avant le confinement.
Voilà, donc nous avons les cinq noms de ces cinq héros, de ces cinq mains coupées, signés Sophie d'Ivry. Vous avez choisi la forme du cœur antique. Les voix racontent la même histoire, chacun de façon différente, et pourtant c'est une seule et même histoire.
J'entends un truc qui tombe à côté de moi, un engin qui m'effleure la jambe et qui s'arrête près des rails du tram. Je vois juste une forme. C'est à ce moment-là que la grenade m'a atterri dessus. Au moment de me relever, je vois un gros cylindre rouler à côté de moi, une sorte de grosse canette assez longue qui fumait. Ça tournait comme une toupie. Il y avait une fumée incroyable qui sortait de cet engin-là. Je me suis dit, celui-là, il va nous faire mal. C'était juste un objet par terre que je voulais écarter. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne l'ai pas vu arriver. J'ai cru que des galets lacrymogènes allaient s'éjecter. La seule envie que j'avais, c'était de l'éloigner. Je n'ai pas réfléchi, j'ai voulu la prendre dans ma main pour l'éloigner. C'était un réflexe, c'est animal. Danger, j'éloigne. Là, mon collègue m'a crié « touche pas !» Mais je n'ai pas entendu. Je me suis approché, forcément je l'ai ramassé de la main droite parce que je suis droitier. J'ai ramassé la grenade et c'est là que ça a explosé. Elle a explosé sur moi. J'ai juste fait un pas, je ne pense même pas l'avoir touchée. Je tends le bras et ça explose. Ça fait comme dans les films de guerre quand il y a du blanc et un sifflement aigu dans les oreilles. Il y a eu un boom. Non, en fait, je ne me rappelle même pas avoir entendu le boom. Je ne me souviens pas. Je n'entends rien. Je sens un énorme choc. Par réflexe, je tourne la tête et je ferme les yeux. Quand je reprends mes esprits, je sens quelque chose de bizarre sur moi. Je me dis bien que quelque chose a été éjecté de la grenade, mais à cet instant précis, je ne sens rien. Je ne perds pas connaissance. Ma première réaction, c'est de partir en courant en tenant mon bras pour me mettre à l'abri. Je cours vers les gilets jaunes. Je me rappelle sentir alors comme des fourmis dans les mains. C'est la réaction des autres qui m'a alerté. On le voit sur la vidéo qui a circulé sur Internet après. Autour de moi, les gens s'écartent avec des yeux écarquillés d'horreur.
Sophie d'Ivry, on entend ces voix qui se mélangent pour faire une voix unique. C'est le cœur antique tel qu'on le connaît depuis des siècles. Mais pour vous, ça veut dire aussi quelque chose, j'allais dire presque de politique, qui est que tous ces récits différents, toutes ces vies différentes, au fond, elles nous racontent quelque chose de collectif, quelque chose qui nous dit aussi quelque chose de nous-mêmes, la manière dont on regardait ce qui se passait sur l'écran de la télévision, la distance qu'on pouvait ressentir, ou au contraire, tout d'un coup, le fait de se dire « mais au fond, ce sont nos enfants, c'est à nous qu'on fait ça ».
Oui, absolument. Déjà, c'est un geste formel, ouais, tout à fait, de faire un seul cœur avec cinq récits. Et puis, en plus, cinq résidences, ça fait un portrait de gilets jaunes, parce qu'ils sont tous un étudiant, un ouvrier, un chaudronnier, un technicien. Ça fait quand même un portrait cubiste des classes populaires engagées. Mais eux-mêmes ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissent toujours à peu près pas. Mais ils ont tous manifesté ensemble. D'ailleurs, Frédéric et Ayane ont perdu la main le même jour, un à Tours, un à Bordeaux. Ils ont, à un moment donné, ils se sont rassemblés. Et ce qui se passe avec cet accident, c'est qu'à ce moment-là, toute leur vie bascule et ils sont démembrés, au sens propre. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était beau dans le mouvement des Gilets jaunes, il y en a un qui m'a expliqué ça avec... qui était extraordinaire pour moi, qui ai fait des sciences politiques. C'était vraiment l'idéal de la convergence des luttes. Au début, j'y croyais pas. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était moi aussi, donc j'y suis allée. Et puis après, même, je me suis politisée. Et après cet accident, en fait, il n'y a plus que des opérations, des rééducations, des problèmes de papier, des problèmes de... On ne sait plus conduire, on n'a plus de travail, on a encore le crédit à payer, mais on n'a plus de salaire. Ils sont renvoyés chez eux. Et l'État, on peut déjà en parler, la police, la justice veut qu'ils restent tout seuls chez eux, traumatisés. Alors moi, en le rassemblant en l'enquête antique, en effet, avec quelques solos aussi tout de même, j'essaye littérairement de les rassembler en un cri. Un cri. Et c'est en effet pas que leur histoire, c'est notre histoire. Ça, je crois beaucoup en cela. C'est notre histoire, c'est aussi d'ailleurs pas que l'histoire des victimes qui sont censées... Certains sont devenus des héros. Antoine Boudinet, d'une certaine manière, qui s'est fait élire conseiller municipal d'opposition dans la liste du NPA au conseil municipal de Bordeaux, lui, il s'en sort bien. Mais d'autres ne s'en sortent pas bien du tout. Ils ne sont pas obligés de devenir des héros parce qu'ils ont été des victimes. Mais c'est notre histoire à tous. En tant que tel, c'est notre histoire et c'est même l'histoire de la police. C'est-à-dire que ce n'est pas un camp contre un autre. Comme le disait bien la citation du préfet, en effet, en 68, qu'est-ce que devient la police? Si on vous envoyait votre enfant dans la police, il risque de devenir un mutileur. Un raciste ou quelqu'un qui crève les yeux, qui mutile et qui dit c'est pas grave, c'est pas nous, c'est l'autre camp. Moi, c'est la police de notre pays. Ou sinon, alors c'est l'armée. S'il s'agit juste de faire du mal, de déployer la force, alors on les envoie dans l'armée, ces gens-là. Mais si on fait une police pour la population civile, ça sert à une police qui doit être non violente, qui doit faire baisser le niveau de violence et pas l'augmenter. Mais c'est notre histoire, dans le sens où moi je me suis bien rendu compte, parce que si j'avais du mal même à arrêter mes petites histoires, mes fictions, pour. Prendre 6 mois pour écrire ça, c'est parce que ça m'obligeait à regarder vraiment ce qui nous arrivait. Et ce qui nous arrive, c'est, enfin, pour revenir sur ce que vous dites, j'ai terriblement honte, en fait, de ce que notre pays a fait à ses enfants. Surtout à cet enfant Gabriel qui s'en remet très mal, qu'en plus qu'il n'aura pas de prothèse remboursée, en plus Gabriel, c'est horrible, parce qu'il a rien, quoi. Il a même pas l'allocation adulte handicapé, tout ça, puisqu'il reste un pouce et demi, alors que les autres, bon. C'est un peu le musée des horreurs, c'est vrai, mais en même temps, c'est notre histoire. Et. Au fond, prenons déjà le temps de la considérer comme une hyperviolence qui nous arrive et qui arrive pas qu'à eux, mais donc à leur famille, et donc à leur village, à leur usine, parce qu'il y a des belles histoires d'entreprises. Et ça arrive à tout le monde, et ça envoie de la violence dans le corps social. Et c'est arrivé, et eux, ils ont très peur qu'on les oublie. Mais nous, je pense qu'on n'a pas pris la mesure de l'onde de choc de cette violence que ça a envoyée.
On va en parler.
Le fait qu'on a dépassé une certaine mesure, où d'habitude, quand on va manifester, on peut accepter certaines doses de gaz lacrymogène. Mais là, on avait basculé dans autre chose et ils s'en étaient pas rendu compte.
First day of the run, let the game begin. Show me how to stand the cold sun and the bright sun. Second day coming on. Let me take your hands, you will understand the cold sun and the bright sun, flowers and again.
Sur France Inter.
Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Vous êtes dans une société où il y a un état de droit. La police, elle répond à des lois qui ont été décidées par le législateur qui sont sous le contrôle du juge. Sous le contrôle du juge. Et donc, partout où en effet il y a de la violence, j'assume totalement que les forces de l'ordre soient en situation, d'une part, de se protéger, d'autre part, de maintenir l'ordre public. L'ordre public, c'est ce qui permet à chacun d'exprimer ses différences d'opinion librement, d'aller manifester s'il le veut ou si elle le veut, ou de pouvoir s'exprimer. Mais aller dans un endroit, détruire les vitrines, menacer de mort les élus, frapper les forces de l'ordre, se mettre des masques, des casques, arriver avec des boulons, etc., ça n'est pas la démocratie. Je le regrette. Je constate que après des semaines et des semaines, moi je constate qu'il n'y a aucun mort à déplorer du fait des forces de l'ordre. Malheureusement, il y en a eu, du fait d'autres bêtises. Bon. Mais, non, madame, vous n'avez pas l'air d'être quelqu'un qui fasse de la violence urbaine. Mais si on se met à tout confondre, si on se met à dire manifester pour ses idées, exprimer ses idées librement dans la rue, c'est la même chose qu'être violent et commettre le pire, à ce moment-là, je vous le dis très simplement, il n'y a plus de cadre démocratique viable. Et de là où je suis, ma responsabilité, c'est de faire cette distinction. Donc vous me parlez de répression, je vous dis c'est faux.
C'était en mars 2019, au moment du grand débat national, justement, en pleine période de crise des Gilets jaunes. Et depuis, la position du gouvernement, Sophie Divry, n'a pas changé. Dans un état de droit, il n'y a pas de violence policière. Donc si on constate qu'il y a des violences policières, ce n'est plus un état de droit. Et on peut se poser la question dans ce sens-là aussi, d'autant plus quand on entend l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui lui disait « lorsqu'on va manifester, on prend un risque ». Donc on est dans un pays, dorénavant, où lorsqu'on va manifester, on prend le risque de se faire éborgner, de se faire matraquer. Donc on est aujourd'hui, et votre livre est en plein dans cette prise de conscience collective, on est les seuls en Europe à se retrouver face à des ordres donnés à la police par un pouvoir politique qui ont à voir avec une répression par rapport à nos voisins européens qui, eux, sont plutôt dans une doctrine « pas d'affrontement, le moins de blessés possible ». La France, régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, fait quand même figure d'exception.
Oui, alors je suis pas une spécialiste de la violence policière au niveau européen, mais en effet, on a été condamné par l'ONU, il y a eu des alertes, en effet, du Conseil de l'Europe, qui sont pas des dangereux gauchistes. C'est extraordinaire d'entendre Macron qui parle de là où il parle, comme il a dit, de là où je suis. C'est pas mal. J'aimerais bien que ce livre envoie un peu des cabossures de sens sur ces gens-là. Emmanuel Macron, Christophe Castaner, Michel Delpouche, toute la chaîne de commandement, en fait. Le préfet de police de Paris et Didier Lallemand, qui était préfet de police de Bordeaux, avec un bilan de mutilation extrêmement lourd, parce qu'on parle des mains aujourd'hui, mais les yeux, c'est 25 yeux crevés, c'est abominable. En fait, les yeux, c'est sans doute pire. Qui a été promu après, préfet de police de Paris. Ça serait si bien si tout était tellement équilibré que les grenades tombaient sur les black blocs qui sont en train d'accéder les vitrines, mais c'est pas ça qui se passe. Quand on arme la police comme ça, qui sont des choix politiques, c'est pas une fatalité. Quand on commande des grenades à une usine, quand on les envoie, on dit oui, on a le superviseur, machin, ça ne peut que dégénérer. La question, c'est quoi on arme les policiers? Les policiers d'aujourd'hui, déjà, ce n'est pas les policiers 68. C'est des Robocop. Donc, ils n'ont pas les mêmes armes. Et le spectacle de violence de quelqu'un de surarmé et en plus de protégé d'une impunité institutionnelle qui s'en prend à un smicard qui vient demander la hausse du smic et qui n'a qu'à la rigueur rien dans ses mains, que c'est un spectacle d'une obscénité abominable. Et quand bien même ils auraient voulu prendre un pavé pour l'envoyer dans une vitrine, qui, quelle loi? Moi, j'ai jamais voté une loi comme quoi la police a le droit de couper une main à quelqu'un qui a commis un délit. Enfin, à ma connaissance, non. À ma connaissance, on n'a pas réintroduit l'excrétiment corporel dans la loi républicaine. Donc c'est une question d'escalade de la violence, d'ensauvagement de la police. Et ça, c'est un choix politique. On peut très bien désarmer légèrement la police, qui a été mais surarmée depuis les années Sarkozy, qui est rendue comme une espèce de puissance. Alors ça fait sans doute des fantasmes de certains ministres. Mais si on laisse le ministre de l'Intérieur se faire dicter les lois par les syndicats et puis jusqu'au boutiste de la police, mais oui, dans ces cas-là, on aura les chars d'assaut à chaque manifestation. Mais il n'y a pas de fatalité pour que chaque manifestation finisse en as, ou finisse avec des gaz lacrymaux à minima. Et d'ailleurs, comme le disait Ayane, il disait, mais moi, j'ai manifesté toute ma vie à Tours, on faisait un petit tour, tout allait très bien. Pour moi, ça allait bien se passer. On a fait ce contrat-là, quand même, qu'après, à la rigueur, à la fin de la manifestation, s'il y a des excités, ben, ils règlent leur compte, mais tout le monde est parti et qu'il n'y a pas de problème. Et même là, ça finit devant les tribunaux. ça finit pas avec le travail perdu, les revenus perdus et toute une vie assignée à une mutilation. Et donc ça se passe pas de manière harmonieuse et ça tombe pas sur les Black Blocs d'ailleurs. Ces gens-là n'étaient pas les Black Blocs parce que les Black Blocs, ils savent très bien quand il faut partir d'ailleurs. Voilà, mais après, je dis pas qu'il y a pas une montée de violence générale. Sauf que moi, j'ai jamais voté pour qu'on coupe des mains aux ouvriers quand ils vont manifester pour la hausse du SMIC. C'est pas ça l'état de droit.
D'ailleurs, on va redonner la parole à vos cinq héros, Sophie Divry. On les écoute, c'est justement le moment de l'horreur.
Gilets jaunes, quel est votre métier ?
Mon beau-frère est allé voir les CRS pour qu'ils viennent me chercher, sauf qu'il ne voulait pas se déplacer. Il pensait que c'était un piège, qu'ils allaient se faire attaquer. Mon beau-frère a dû se mettre à genoux, il a dû se mettre à pleurer, il a dû les supplier pour qu'ils acceptent de venir me chercher. Je ne pourrais pas dire combien de temps je suis resté à attendre les secours. J'étais parti dans un autre monde. Quand je commence à réentendre les sons, ça crie de partout. Les gens sont horrifiés, c'est oppressant. Une personne est quasiment assise sur moi pour que je ne regarde pas ma main. Un autre me tient le bras pendant les premiers soins. Quelqu'un essayait de me réconforter, il me disait « Tout va bien, mon bonhomme ». Il y avait aussi des gens qui filmaient avec leur téléphone, des gens qui sont juste dans le « je veux voir ». Je me rappelle de tout. J'étais conscient, mais un peu comme dans un rêve. C'est-à-dire, je suis là à me rendre compte qu'ils m'ont pris ma main. C'est à ce moment-là que mon beau-frère revient avec les CRS. Ils étaient en mode tortue, comme les Romains à l'époque, comme dans Astérix et Obélix. Mais pour dire, c'était super violent. Mon cousin m'aidait à avancer quand un CRS lui a mis un coup de matraque. Pourquoi, je ne sais pas. On n'est plus dans quelque chose qui se réfléchit. Je passe la grille de l'Assemblée, je vois des forces de l'ordre et je leur dis « Vous êtes cinglés, regardez ce que vous m'avez fait, vous êtes fous !» Les gendarmes ne savent pas trop quoi répondre. Moi, de l'autre côté de la barricade, ce sont les CRS qui m'ont fait un garrot. Les mêmes qui avaient lancé la grenade. J'ai le bras droit avec une espèce de baluchon au bout fait par les street medics. J'entre dans cette petite pièce annexe à l'Assemblée nationale. Je suis par terre et je vois le camion de pompiers arriver enfin et au même moment, des galets de lacrymo tombent dans la ruelle. Les pompiers sont stupéfaits. « Putain, ces enculés, ils nous gazent !» À cause de ces tirs de lacrymo, les pompiers m'ont dit « On ne va pas pouvoir prendre la civière. Est-ce que vous pouvez vous lever et marcher ?»
Sophie Divry, on sait bien au moment de tous ces accidents qu'il y a eu deux armes particulières dont sont armés les policiers français qui ont posé problème et qui posent problème depuis les années 2005 même. C'est la grenade offensive et c'est le lanceur de balles de défense. Il y a eu à la mi-septembre, au terme d'une consultation, la remise de ce qu'on appelle le schéma national du maintien de l'ordre, le fameux SNMO. Et en fait, toutes ces armes qui ont posé problème, qui ont mutilé énormément de gens depuis les dernières années, elles sont à nouveau autorisées. Le recours à des unités non spécialisées dans le maintien de l'ordre également. Donc au fond, on se rend compte que même lorsque le gouvernement ouvre un débat, consulte des spécialistes, y compris au niveau européen, qu'on lui dit « ces armes-là, ce sont des armes de guerre », il ne faut pas les employer dans le maintien de l'ordre. Au fond, on a l'impression que tout recommence de la même manière. Et c'est là où un livre tel que le vôtre peut nous servir à réfléchir.
En effet, ce qui est terrible en plus, c'est que les classes sociales qui constituent la police et les classes sociales qui constituent les gilets jaunes se font la guerre entre elles. Il n'y a qu'une seule solution, c'est l'interdiction du LBD, des balles, qui est quand même le geste de tirer sur la foule et revenu, voilà. Et c'est l'interdiction stricte des grenades offensives, qui est plus ou moins de TNT dedans, ne change rien, parce qu'il change le nom, il change la ligne de production, mais ça ne change rien. C'est la même, au fond, qui a tué Vital Michalon, et c'est la même qui a tué Rémi Fraisse. Et on est passé à très peu que ça tue un de ces cinq garçons. Mais sans doute, il ne reste que la police pour défendre quelque chose de l'ordre de leur politique. Et donc, une certaine police garde avantage de ça. Moi, je pense que la police y perd son âme aussi, et que beaucoup à l'intérieur de la police souffrent énormément de la perte de sens. Parce qu'il faut, qui est protégé ? Voilà. Actuellement, en effet, il y a un danger de laisser, en effet, cette violence devenir institutionnelle. Mais, encore une fois, si on changeait de gouvernement, de ministère, de délibération, tout ce qui est su depuis très longtemps, parce que depuis Notre-Dame-des-Landes, il y avait des rapports très bien qui ont été sortis par les experts et puis ensuite par Libération, ils savaient très bien que ça allait faire des mutilations, ça allait contenir. Donc il fallait utiliser ça. Je pense que le but est en effet, vu qu'on ne peut pas changer, ils veulent pas changer de politique, et ils peuvent pas empêcher les gens de pas être d'accord, et ils veulent les empêcher de manifester. Ce qui est intéressant, c'est que ça, moi, les gens que j'ai rencontrés, eux n'ont pas la haine des flics. Ils savent très bien que c'est systémique, que c'est pas la question de qui a balancé ça sur lui à ce moment-là. Ils veulent que ça change systémiquement. Voilà, ils veulent que ça change en entier. Et plus ils arrivent à monter en généralité, d'ailleurs, et à inscrire cette blessure dans l'histoire générale de leur pays et les mouvements sociaux, plus ils arrivent à prendre la distance et à faire, comme ils disent, le deuil de leurs mains. Voilà. Mais surtout, ce qui est terrible pour eux, c'est que le 24 novembre 2018, donc le deuxième ou troisième acte, Gabriel, 21 ans, perd sa main. Et le dernier, c'est le 17 février 2019, devant l'Assemblée nationale. Et pendant 4 mois, on a laissé faire ça. Et jusqu'à épuisement des stocks. Ce qui est insupportable, c'est que c'est l'idée que demain, quelqu'un d'autre perde sa main. Ça, c'est juste insupportable. L'idée qu'on le savait, il y a ça. Et en effet, ils toilettent un petit peu comme ça, mais structurellement, ils n'arrivent pas à désescalader la violence. Parce que dans ces cas-là, pour eux, c'est de la vulnérabilité. Alors qu'au contraire, c'est une construction. En plus, c'est pas comme si on ne savait pas maintenir l'ordre différemment.
Oui, d'ailleurs, dans ce livre, Sophie Divry, à la fin, où tous ces jeunes et moins jeunes mutilés qui doivent essayer de vivre malgré tout, ils en sont au stade de à qui la faute, enfin réfléchir. Et c'est pas du tout, effectivement, ils sont pas dans la recherche du quel est le policier qui m'a mutilé. Ils sont passés au stade de la réflexion politique et ils se rendent bien compte que c'est au-dessus qu'il faut adresser leur demande.
C'est un scandale, c'est de l'agression. C'est gratuit. C'est volontaire de faire mal aux gens. Je suis victime de l'État. Je suis victime de violences policières. J'essaye de rester digne alors que je suis totalement indigné. On me dit qu'il ne fallait pas y toucher. Moi, je leur dis qu'il fallait pas nous balancer ça sur la gueule. Ça commence là, l'histoire. Pourquoi ils ont des armes comme ça? On est dans un pays où on a le droit de manifester. C'est connu. Les Français, ils sont comme ça. Et au final, tu te retrouves à te faire mutiler. C'est censé être les droits de l'homme, et là, c'est comme si c'était la guerre civile. Des fois, je me dis, pourquoi moi? Mais si ce n'est pas moi, pourquoi un autre? Je ne trouve pas ça normal que ça arrive dans notre pays. Liberté, égalité, fraternité, bah là, je ne l'ai pas vu. Ce que je veux, c'est l'interdiction de ces grenades. Je me fous royalement de savoir ce que devient le policier qui l'a lancé. J'en veux aux institutions qui ont mis ces armes dans les mains des flics. J'en veux au ministère de l'Intérieur, à Castaner, au président. Je veux leur démission. Macron est d'une arrogance insupportable. Quand on va dans la rue, il part en voyage ou il va faire du ski. Il se fout complètement des petits Français comme nous. J'en veux à Macron, à tout ce gouvernement qui n'est là que pour protéger ses propres intérêts. On enlève tout aux services publics, aux hôpitaux, aux pompiers, et on doit fermer nos gueules? Il n'y a pas de sous pour nous, mais par contre, il y a assez pour acheter des LBD et des grenades? Ils font leur petite magouille et on doit se taire? On n'est plus en démocratie alors. C'est incroyable qu'on autorise les forces de l'ordre à balancer de tels engins sur les civils. Je n'arrive pas à me faire à cette idée-là. Il fut un temps où aucun Français, aucun citoyen n'aurait accepté ce genre de situation. Mais aujourd'hui, l'atmosphère a changé. Les gens s'habituent à tout. Je veux qu'on change de gouvernement. J'en veux à la police. J'en veux aux forces de l'ordre. Ce sont eux qui m'ont fait ça. Comment faut-il le dire ? On ne jette pas de la TNT sur les gens.
Sophie Divry, pendant cette longue crise des Gilets jaunes et toutes ces manifestations si durement réprimées, il y a eu, surtout dans le pays, un grand besoin de débattre, de parler. Quelque chose s'est ouvert, on a vu à l'occasion du grand débat national, puis le virus est arrivé, toutes les portes se sont refermées. En même temps, vous qui avez tourné pour écouter ces paroles, est-ce que vous avez l'impression que quelque chose est en germe, là, à partir de ce que nous avons vu, ce qui s'est passé à ce moment-là?
Voilà, je ne sais pas, je ne suis pas analyste. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des 5, ils sont quand même retournés manifester. Parce que comme ils disent, oh, on est des Français, on n'est pas d'accord, on y va. Alors bien sûr... c'est un passage du livre, si tu dis, là, maintenant qu'il y a un gaz lacrymogène, je me casse. Il y a quelqu'un qui dit ça. Mais Oui, moi je pense qu'on le voit à travers les manifestations contre la loi travail, les retraites, Nuit debout, les gilets jaunes. Je cite Gilles Boulot qui a écrit un très bon petit livre, La ligne jaune. Je pense que le processus révolutionnaire est enclenché, comme il dit. Après, en effet, il y a plusieurs lignes en France. Hein. Il y a la ligne attentat, il y a la ligne crise sociale, et puis il y a le Covid qui tombe sur le monde entier. Mais quelque chose est en germe, moi je veux le croire. Mais c'est, après, c'est vrai que le but du livre aussi, c'est de redonner chair. Enfin, moi, je suis romancière, et quand même, la grande force du roman, c'est d'arriver à vous faire rentrer dans la tête de quelqu'un. Moi, quand j'entendais ces faits divers, je dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe après? Quelle est leur vie à ces gens? Et là, ça donne une troisième dimension. Et du coup, on peut fraterniser avec eux. Et calmement, parce qu'un livre, c'est calme. Là, vous faites un montage radio, et c'est très bien ce que votre réalisateur a fait. Mais moi, je vais vous dire, je peux pas regarder les vidéos qui tournent. J'ai jamais regardé les vidéos d'Antoine, parce qu'on le voit, on le tourne. Je suis incapable de regarder ça, parce que moi, je suis capable de m'évanouir au cinéma, même quand il y a une scène de fiction, de torture. Par contre, quand on lit leurs mots, chacun peut y mettre le ton, chacun peut le lire comme il l'entend. Moi, je sais comment ils l'ont dit, mais... Et ça permet de calmement se confronter à cette violence de l'époque, mais chacun chez soi, chacun calmement. Et ça, je trouve que c'est important que la littérature soit là aussi, parce que l'image est importante, mais on a filmé tout ça, mais on s'en est pas rendu compte. Là, calmement chez soi, on peut le lire et que ça fasse son chemin dans notre cœur.
Vive la littérature et vive la pensée également. Merci à vous, Sophie Divry, d'être venue nous parler de ces 5 mains coupées qui viennent de sortir aux éditions du Seuil. Merci, bonne route.
Merci, bonsoir.